je vais essayer d'être le plus bref possible. Bref, pas 10 minutes, mais enfin, ne pas prendre les 3 quarts d'heure que j'avais accordé au départ. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Est-ce qu'on m'entend comme ça?
Oui, oui.
C'est pas. De manière à laisser à Jean-Claude Bascon plus de temps que celui qui était impliqué sur le programme. Bon, ça n'est qu'une introduction, donc je ne vais pas quand même prendre trop de temps. Alors, le but finalement de l'introduction, ça va être de faire quelque chose d'un peu pédagogique, puisque c'est quand même une journée pour des professeurs de sciences économiques et sociales avant tout. Et je voulais un petit peu donner quelques éléments de comparaison de deux programmes de recherche en sociologie de la culture. Le premier qu'on appelle communément sociologie de la consommation culturelle, et le second, que l'on peut nommer sociologie de la réception des biens culturels, sachant que certains sociologues ou certains historiens préféreraient nettement parler ici de sociologie de l'appropriation des biens culturels plutôt que de réception. Alors, il ne s'agira pas pour moi de dire que ces programmes sont concurrents. Je l'annonce tout de suite, et qu'il faut choisir son camp. Encore moins d'appeler à remplacer un programme par un autre. Mais de montrer comment ces deux approches, finalement, l'effet culturel et artistique, n'ont ni tout à fait les mêmes finalités scientifiques, ni les mêmes objets, et aussi ni les mêmes méthodes. Si je précise cela, c'est parce que, historiquement, pour des chercheurs de ma génération, l'une, la sociologie de la réception, arrive après que l'autre, la sociologie de la consommation culturelle, ait déjà produit un certain nombre d'effets de connaissance. Et c'est pour cette raison que certains représentants du premier type d'approche ont pu se sentir menacés, de même que certains représentants du second type d'approche ont pu penser leur recherche dans une logique de lutte contre la sociologie de la consommation culturelle. Mais si ces programmes de recherche ne sont pas totalement étanches et révèlent parfois, il me semble utilement, leurs limites mutuelles, il serait absurde, me semble-t-il, de penser les choses de cette manière. Un programme de substitution, de remplacement, un programme qui serait meilleur que l'autre, pensé comme plus heuristique que l'autre. On peut très bien, il me semble, selon les objets que l'on étudie, pratiquer l'une ou l'autre de ces approches, et parfois même pratiquer l'une et l'autre, ce qui demande beaucoup plus de temps de travail, évidemment, dans le second. Alors d'abord, référence théorique majeure. La sociologie de la consommation culturelle, elle est devenue évidemment classique en France depuis près de 40 ans maintenant, et c'est évidemment, pas de scoop à ce sujet, Pierre Bourdieu qui en a été le formalisateur ou théoriseur, le théoricien, le plus complet, notamment évidemment dans l'ouvrage des distinctions publié en 1979, mais qui portait sur les enquêtes ayant été produites dans les années 60. Et puis cette sociologie a inspiré aussi les grandes enquêtes du ministère de la Culture sur les pratiques culturelles des Français, celle de 1973, puis de 81, puis de 89. Et enfin, pour le moment, de 1997. La prochaine connaîtra un certain nombre d'inflexions, je ne reviendrai pas là-dessus. Olivier Demain est venu à l'École normale supérieure de Lyon pour dire les inflexions qui seraient à l'œuvre dans la prochaine enquête qui est en train d'être passée. Donc voilà. D'un côté, la sociologie de la consommation culturelle. De l'autre côté, la sociologie de la réception puise ses sources théoriques en France dans plusieurs grandes directions. J'en oublierai évidemment certaines sans doute. Mais enfin, il y a des textes qui ont été plus importants que d'autres, des courants, des auteurs qui ont été plus importants que d'autres. Il me semble que beaucoup d'auteurs ont mobilisé l'esthétique de la réception de Hans-Robert Kiaus pour une esthétique de la réception, qui est traduit chez Gallimard en 1978. Je cite la traduction parce que pour les Français, c'est ça qui était important. Peu de mes collègues ont lu en allemand. Et donc, c'est plutôt dans ces années-là qu'il a été, fin des années 70, début des années 80, qu'il a été très utilisé. Deuxième point, des réflexions sur l'appropriation culturelle de Michel de Certeau, dans l'invention du quotidien, publié en 1980, c'est après la même période. Une partie de des travaux relevant des cultural studies, avec la figure notamment Richard Hogarth, évidemment, fondateur du Centre pour les études culturelles contemporaines de Birmingham en 1964, et dont l'ouvrage The Uses of Literacy est introduit par Jean-Claude Passeron en 1970 sous le titre La culture du pauvre. Il y a bien évidemment depuis d'autres auteurs, parmi lesquels David Morlaix, pour ne citer que lui, dont on trouve un texte dans l'ouvrage sous la direction d'Isabelle Charpentier, qui est là. Donc, l'ouvrage s'intitulait Comment sont reçues les œuvres, actualité des recherches en sociologie de la réception et des publics chez Créafis en 2006. Et puis le dernier texte qui me semble jouer un rôle ces dernières années, c'est les éléments de réflexion sur une sociologie de la réception artistique de Jean-Claude Passeron dans un texte intitulé L'usage faible des images, enquête sur la réception de la peinture, publié donc dans le raisonnement sociologique chez Nathan en 1991. Voilà pour ce qui est des.
Qui n'existe plus.
Qui n'existe plus, oui.
Michel Michel, une nouvelle
partie. Je fais juste un rappel des faits historiques. Depuis republié chez Albin Michel. Alors, des objectifs ou finalités scientifiques en partie différentes, mais pas totalement inconciliables. Du côté de la sociologie, de la consommation culturelle, il me semble qu'elle entend saisir principalement la distribution inégale des œuvres, des compétences culturelles, des pratiques, et c'est fondamentalement une sociologie des inégalités culturelles et des fonctions sociales de l'art. Les fonctions sont notamment des fonctions de distinction culturelle, pour résumer l'argument, lorsqu'on a affaire à un espace culturel hiérarchisé, où tout ne se vaut pas, il y a en effet un produit de distinction à se démarquer du vulgaire, dans les deux sens du terme, le commun et le grossier, en s'associant à ce que l'on perçoit comme de la haute culture, de la grande culture, principe d'agrandissement par l'association à de la grande culture. Il faut rappeler que cette sociologie des pratiques culturelles, comme la sociologie de l'école, qui en a constitué le premier acte, s'est bâtie contre l'idéologie du don de nature ou du goût naturel. Face à ceux qui pensaient que la sensibilité, et qui pensent encore aujourd'hui, que la sensibilité culturelle esthétique est une chose innée, la sociologie de la consommation culturelle va montrer qu'il existe une correspondance statistique assez forte entre la hiérarchie des arts, les plus légitimes ou moins légitimes, et à l'intérieur de chaque art, la hiérarchie des genres, et d'autre part, la hiérarchie sociale des consommateurs ou des publics. On trouve la formulation, d'ailleurs, de ce programme de recherche dès 1963, et je disais à Jean-Claude Passeron que j'avais cité une lettre inédite pour moi, peut-être qu'elle est connue d'autres. Un étudiant qui fait un travail dans les archives à Rouen, à Paris, a trouvé la lettre de soutien de la candidature de Pierre Bourdieu à l'école pratique des études 6e section. Et alors, je ne vais pas vous lire la lettre d'éloge pour présenter le candidat. Elle est adressée à Fernand Braudel, mais il y a le plan d'enseignement de Pierre Bourdieu, et ça résume assez bien, dès 1963, un programme de recherche qui est celui de la sociologie de la consommation culturelle. Dans les deux éléments du plan d'enseignement, le premier est ethnologie et sociologie, et le deuxième, recherche empirique sur la sociologie de la culture moderne. Je cite ce passage. Dans le prolongement des travaux déjà réalisés au Centre de sociologie européenne, il s'agirait d'organiser un ensemble de recherches collectives, enquêtes par sondage menées en équipe et monographies, portant sur les différents aspects de la pratique et de la consommation culturelle dans les sociétés modernes. Les enquêtes antérieures ont fait apparaître le rôle déterminant de l'école dans la formation des attitudes à l'égard des différents types de biens culturels, depuis la cuisine jusqu'à la peinture abstraite. L'analyse des variations de la consommation culturelle selon les classes sociales et selon les niveaux d'instruction devrait donc s'accompagner de l'étude des institutions d'éducation considérées en tant que système chargé de produire des consommateurs et des producteurs culturels. Là, vous avez déjà des éléments forts de ce programme qui va évidemment être réalisé en collaboration avec Jean-Claude Passeron. Enfin, la collaboration, elle est à égalité à cette époque-là. Vous avez deux sociologues qui engagent, animent, dirigent un certain nombre d'enquêtes. Et on va avoir en 1979, quand même, 16 ans plus tard, un produit qui est la réception. Elle s'intéresse davantage aux formes variées de l'expérience faite avec l'art ou avec différentes sortes de biens culturels, aux formes multiples d'appropriation des œuvres d'art ou des biens culturels, aux manières plurielles de s'approprier les mêmes textes, les mêmes tableaux, les mêmes spectacles, etc. Alors il faut souligner ici que quelques chercheurs ont, par certaines de leurs formulations, mis en relation les deux approches, en laissant entendre que les différences culturelles se donnent à voir autant, sinon davantage, dans les différentes manières de s'approprier les œuvres que dans la distribution inégale de ces œuvres. C'est-à-dire que certes, il y a des inégalités qu'on peut objectiver en regardant comment les œuvres se distribuent socialement, constater des inégalités sociales dans la culture, mais les manières de s'approprier créeraient des différences encore plus considérables d'après un certain nombre de textes. Alors, ça n'a pas donné lieu concrètement à des programmes de recherche empirique alors véritablement dans ce sens, et de manière systématique, je dirais, mais ce lien établi entre la sociologie, l'histoire de la réception et les questions d'inégalité sociale devant la culture, qui est au cœur de la sociologie de la consommation culturelle, me semble important à souligner. Je pense ici notamment à certains textes de l'historien Roger Chartier, qui écrit, par exemple, que les modalités d'appropriation des matériaux culturels sont sans doute autant, sinon plus, distinctives que l'inégale distribution sociale de ces matériaux eux-mêmes. Et dans les textes de Chartier, dans un certain nombre de textes, là, la citation est tirée du texte qui s'appelle « Du livre au livre en pratique de la lecture », et dans un certain nombre de textes, Chartier indique que l'histoire qui repose sur des données statistiques et qui saisit utilement les distributions légales de biens matériels ou symboliques doit être largement complétée, et l'idée est une idée de complétude. L'idée de compléter quelque chose, un programme qui n'est pas le même programme d'une certaine façon, mais à compléter par une étude historique sensible, d'une part à la description détaillée de ces biens, insuffisamment décrits, analysés, etc., et d'autre part à l'examen des modalités et des contextes de leurs usages contrastés. Voilà le programme. Et effectivement, quand bien même l'analyse statistique établirait que des auteurs comme Zola ou Hugo seraient autant lus, ou en tout cas lus dans les différents groupes sociaux, il reste encore à vérifier si les groupes sociaux différents s'approprient identiquement ou différemment les mêmes œuvres. Germinal ou Les Misérables peuvent être lus dans tous les milieux sociaux. On rencontre des gens à capitaux extrêmement variables qui peuvent avoir ça dans leur bibliothèque. Mais qu'en font-ils? Quel type de réception ils en font? Alors, il n'en reste pas moins que l'étude des formes de réception n'a pas pour nécessité absolue de s'arrimer à une sociologie des inégalités culturelles, mais peut prospecter bien d'autres dimensions, je pense qu'on entendra aujourd'hui, des dimensions morales, pratiques, idéologiques, etc., de l'expérience culturelle. L'articulation de la question des inégalités et de la question de la réception est une possibilité, rien une nécessité absolue. Donc, ni incompatibilité totale, ni communauté forcée d'objectifs scientifiques. Alors, du point de vue des différences méthodologiques maintenant entre les deux programmes, je vais mentionner simplement l'opposition entre ce qu'on peut appeler un principe d'agrégation et un principe de singularité. Premier point, la question de la consommation culturelle est traitée sociologiquement en agrégeant des produits, des pratiques culturelles en catégories, acte classique de l'enquête quantitative. En matière de littérature, les textes vont être réduits à des noms d'auteurs et, encore plus fréquemment, dans les grandes enquêtes, à des genres ou à des courants littéraires. On demandera à l'enquêté, par exemple, quel genre de roman il préfère, science-fiction, policier, sentimentaux, littérature classique, etc. En matière de peinture, on lui demandera ses préférences parmi une série de courants, impressionnisme, expressionnisme, fauvisme, cubisme, etc. Bon. Et dans les questionnaires des enquêtes statistiques, on va proposer aux enquêtés des sortes de petits jeux de classement. On va leur demander ce qu'ils préfèrent, on va leur demander dans des dispositifs un peu plus sophistiqués d'ordonner leurs préférences dans un ordre croissant, un certain nombre de genres, de courants, de mouvements artistiques, etc. Enfin, dernière remarque, dans une telle approche sociologique, la sociologie de la consommation culturelle, les œuvres et les catégories d'œuvres, étant ramenées à leur valeur symbolique dans la hiérarchie des légitimités, elles sont rendues comparables. C'est ainsi que l'on peut dire, par exemple, et Olivier Donat utilise plus ou moins cette formule à un moment donné dans le texte, en lisant les données sur les pratiques culturelles des Français de 1981, que la roue de la fortune, émission de jeux populaires en France à l'époque et qui est de retour aujourd'hui, ou Santa Barbara, feuilleton de télé très, très populaire aussi, est à la télévision ce que les romans dits de gare, romans de très faible légitimité littéraire, sont à la littérature. On peut faire ce genre de comparaison dans le raisonnement, dans l'interprétation des données, etc. De son côté, la sociologie de la réception ne peut être menée à bien que lorsqu'elle étudie la rencontre socialement différenciée avec des œuvres singulières. On doit notamment à Jean-Claude Passeron un certain nombre de propos théoriques sur cette question de la singularité, de l'étude d'œuvres relativement singulières. Que fabrique le lecteur ou le spectateur avec ce texte, avec cette émission ou cette série télévisée? Quelle expérience en a-t-il? Que vit-il ou que fait-il à travers cette expérience? Ainsi, Dominique Pasquier, qui parlera cet après-midi, mais de toute autre chose, a-t-elle étudié la réception d'une série télévisée, Hélène et les garçons, dans un livre qui s'intitule La culture des sentiments, l'expérience télévisuelle des adolescents, publié en 1999 à la LMSH. Isabelle Charpentier a travaillé aussi dans une thèse toujours non publiée, mais nous, personne ne l'a fait dans cette salle, qui sera un jour publiée. Donc, à travailler sur la réception des œuvres d'Annie et Hermé. Je souhaite, c'est un appel. Alors, autre point que je voulais détailler, une différence entre ce que je pourrais appeler des œuvres à déchiffrer pour la sociologie de la consommation culturelle et des œuvres à s'approprier pour la sociologie de la réception. Dans les deux programmes scientifiques en question, les œuvres ne semblent pas avoir le même statut. Pour la sociologie de la consommation culturelle, l'œuvre d'art possède comme inscrite en elle-même le code culturel que le consommateur doit mettre en œuvre pour la déchiffrer. Tous ces termes-là, code culturel, déchiffré, consommateur, sont importants. Je cite un passage du texte que Bourdieu avait publié en 1996 pour l'Encyclopédie Universalis. Un texte qui s'intitulait « Consommation culturelle », justement. Voilà ce qu'il écrivait. « L'œuvre d'art ne prend un sens et ne revêt un intérêt que pour celui qui est pourvu de la culture ou de la compétence culturelle, c'est-à-dire du code selon lequel elle est codée. » De ce point de vue, la sociologie de la réception implicite de Pierre Bourdieu serait due parfois à posséder ou ne pas posséder le code. Ce code n'est pas seulement un code de communication, c'est un code culturel, attaché à un arbitraire culturel, pouvant procurer des profits symboliques, etc. Mais les modalités de la réception sont très simples. Parfois, le raisonnement est binaire, encore une fois, on possède le code ou on ne le possède pas. Parfois, il est ternaire, de manière à pouvoir intégrer le rapport à la culture des trois grandes classes sociales. La bourgeoisie culturelle se caractérise alors grossièrement par sa maîtrise naturelle, aisée du code, les classes populaires par leur non-maîtrise code, et au milieu, la petite bourgeoisie culturelle, par sa prétention à maîtriser le code ou par sa maîtrise partielle du code. Tout ça, on trouve des éléments de l'analyse, évidemment, dans la distinction. Ailleurs, à propos de la lecture, Pierre Bourdieu évoque aussi l'existence d'un contrat de lecteur, entre l'émetteur et le récepteur, établi, je cite, sur la base des présupposés qui leur sont communs. Donc vous avez encore une fois la notion de code. Il y aurait un code dans l'œuvre, des codes qui sont appropriés ou intériorisés par les lecteurs. Et la lecture, cet acte-là, mettrait en rapport deux codes, un code objectivé et un code incorporé. Côté sociologie de la réception et de l'appropriation culturelle, le sens de l'œuvre n'est d'une certaine façon pas inscrit dans l'œuvre, comme attendant d'être dévoilé ou déchiffré, mais se produit dans la rencontre entre l'œuvre et les récepteurs. De l'œuvre, sont donc coproducteurs actifs du sens de l'œuvre. Il n'y a donc pas un sens, mais des usages, des significations produites à chaque rencontre. De ce point de vue, les commentaires savants, érudits, ne sont pas les seuls possibles sur l'œuvre, même s'ils prétendent dire le code, le sens véritable de l'œuvre, et l'on prend conscience du légitimisme qui hante évidemment la sociologie de la consommation culturelle, impuissante à décrire et analyser les expériences avec les œuvres qui sont hors normes et hors code. La sociologie de la réception s'intéresse, elle, à toutes les formes d'expériences ou d'appropriations, des plus légitimes aux plus bizarres, aux plus non conformes. Elle s'intéresse aux réceptions réelles, telles qu'elles se font. Alors j'ai dit en commençant que chaque programme de recherche révèle parfois utilement les limites de l'autre. Je vais donc en dire deux mots ici. La sociologie de la réception, va permettre de pointer le risque du légitimisme, dont je parlais à l'instant, du côté de la sociologie de la consommation culturelle. En effet, la sociologie de la consommation culturelle a manifesté souvent un certain légitimisme culturel, c'est-à-dire qu'elle regarde le monde à travers les catégories de perception et d'évaluation des dominants. Il faut rappeler qu'on a affaire à une sociologie des inégalités, donc d'écart, de distance à la culture, etc. Ce qui amène évidemment à ce glissement possible vers le légitimisme. Ceux qui ne possèdent pas les codes sont définis par et réduits à, dans certains cas, leur pauvreté culturelle par cette sociologie, sans qu'on puisse décrire et analyser leurs pratiques, leurs goûts, leurs expériences. La sociologie de la consommation culturelle est de même légitimiste lorsqu'elle prête aux récepteurs les plus cultivés la maîtrise du code, alors que les récepteurs non professionnels, même les plus cultivés d'entre eux, ne sont jamais des petits Erwin Panofsky, pour emprunter la formule à Claude Greiner et Jean-Claude Passeron dans Le Savant et le Populaire, publié en 1989. On ne prête qu'aux riches, dit le proverbe. Or, évidemment, le sociologue ne doit jamais présupposer l'existence de connaissances, de compétences ou d'appétences chez les enquêtés les plus riches du capital culturel. Un mémoire qui a été fait dans cette maison montre que des gens qui, dans un entretien extrêmement lâche, pouvaient se vanter d'un certain nombre de compétences, de lectures, de visites, etc., et dans une deuxième partie de l'entretien, un peu plus de tests de connaissances, ne reconnaissaient pas des tableaux extrêmement connus. Donc, des gens qui pouvaient avoir Bac plus 9 et qui ne reconnaissaient pas un Manet, un Monet, ou se tromper entre Manet et Monet, enfin, bon, vous savez, des choses assez intéressant, donc surtout ne pas présupposer par légitimisme que les entités les plus dotées en capital culturel sont tout à fait des connaisseurs de ces de peinture, de sculpture, d'art moderne, de littérature. La sociologie de la réception permet ici d'éviter les pièges du légitimisme culturel et politique. Tout d'abord, au lieu de faire comme si les effets idéologiques, symboliques, religieux, politiques, visés par des institutions de pouvoir de toutes sortes, équivalaient aux effets réellement produits, au lieu de surévaluer les capacités des dominants à acculturer les populations les plus dominées, on se rend attentif aux résistances possibles, les plus bruyantes, celles qui se manifestent, aux plus silencieuses. Ensuite, la sociologie de la réception culturelle permet d'analyser les réceptions faibles, sauvages, étranges, incongrues. Et c'est pour éviter les surinterprétations des actes de réception artistique qu'il est sans doute utile, comme l'a proposé Jean-Claude Passeron, de mettre l'accent sur les usages faibles des œuvres. Parmi les publics cultivés autant que chez les autres, on observe de tels usages, évidemment très décevants pour tous les grands connaisseurs, lorsqu'il est question d'art ou de littérature. Les personnes qui passent dans les allées des musées au pas de course ou distraitement, la lecture en diagonale qui amène à parcourir rapidement le texte qui se satisfait de la lecture de la quatrième de couverture ou de quelques articles critiques, la télévision regardée en somnolant ou en faisant tout autre chose, tout ça existe et va peut-être décevant pour ceux qui pensent que l'image se déverse dans la tête des récepteurs et qu'elle a des effets formidables, mais il faut tenir compte aussi de ces rapports beaucoup moins intenses, beaucoup moins concerné, je dirais, aux images, aux textes, aux spectacles, etc. De façon ironique, Jean-Claude Passeron dit à propos des images, je cite, « On pourrait dire par boutade que pour l'essentiel de leur vie profane, c'est-à-dire en toute société, pour le plus grand nombre d'acteurs sociaux qui font signifier les images en demande ou en commande, les images peintes ou sculptées, télévisées ou filmées aussi bien, ne fonctionnent dans la réception effective qui en est faite qu'à 10% de leur signification et de leur structuration potentielle. Évidemment, nous ne retenons pas le chiffre, c'est pour ça que j'ai dit que c'était une boutade. Je ne crois pas que les passerons les prétendus mesurer ce genre de choses. Mais voilà.
Moi, c'est pas d'un truc que Goldman, qui, par la même boutade, disait que sa sociologie du roman expliquait au moins 80%. Mais après, il expliquait que c'était.
Ceci dit, il était plus modeste, là. Et... 80%. Bon, c'est une boutade. Réception faible, mais aussi réception étrange. Il faut ainsi compter, je crois, parmi les travaux sur la réception textuelle, même s'ils ne s'inscrivent pas explicitement dans le champ de recherche, le vocable réception étrange qu'on trouve étudié dans le livre du micro-historien italien Carlo Ginzburg, Le fromage et les verres, l'univers muni du XVIe siècle, publié initialement en 1976 et traduit en France en 1980. C'est l'histoire d'un meunier, Ménocchio, qui interprète la Bible à sa façon, je veux dire. La création des hommes est notamment pensée sur le modèle des vers sortis du fromage. Les hommes seraient sortis de la terre comme les vers du fromage. Et on a là, je ne vais pas vous faire un résumé de l'ouvrage, une conception très matérialiste de la création de l'homme qui fait l'économie de l'intervention d'un Dieu transcendant et qui court-circuite l'intervention de ses représentants terrestres. C'est ça qui va poser problème pour Ménocchio. Les hommes d'Église sont bien embêtés par ce type de propos et de lecture. Sa mauvaise interprétation, comme on pourrait l'appeler, des textes sacrés, va conduire Ménocchio sur le bûcher de l'Inquisition. Il y a eu des époques où les fautes d'interprétation étaient plus lourdement sanctionnées qu'aujourd'hui. Alors, si la sociologie de la réception a pointé le légitimisme culturel ou la sociologie de la consommation culturelle, cette dernière peut résister aussi à certains dérapages romantiques et relativistes d'une sociologie de la réception trop euphorique quant au degré d'ouverture et de créativité des réceptions. En effet, le risque des enquêtes de réception, lorsqu'elles sont, comme cela a été le cas avec certaines réflexions de Michel Concertot dans l'invention du quotidien, les manières de réhabiliter la liberté des lecteurs et l'inventivité des tactiques, de mettre en exergue les multiples résistances face aux contraintes des textes et des stratégies dominantes, le risque donc est de ne pas voir en quoi la réception peut être bornée, délimitée par le contexte de lecture, parce que l'institution scolaire, religieuse, politique juge et sanctionne les écarts, les mésinterprétations, les malentendus ou les hérésies. La réception est bornée aussi, délimitée par les chaînes d'expérience à partir desquelles les lecteurs s'approprient les textes, chaînes d'expérience qui sont inutiles de s'appesantir. Le produit des socialisations passées et présentes. L'idée de lecture braconnage qu'on trouvait chez Ducerteau laisserait parfois imaginer la prolifération des lectures sauvages, hétérodoxes, étranges, décalées, déroutantes, etc. Mais force est de constater qu'il y a bien peu de cas Ménocchio parmi les récepteurs des œuvres, et par ailleurs, il faut encore une fois rappeler que Ménocchio a été brûlé sur le bûcher. Et que les lycéens qui, aujourd'hui, s'approprient de façon peu orthodoxe les textes qu'on leur donne à lire sont immédiatement sanctionnés par l'institution scolaire, comme l'a bien montré Fanny Bonnard, qui est dans la salle ici, dans sa récente thèse sur les lectures scolaires et extrascolaires de lycéens. De même, il ne faut jamais oublier que, loin d'être libre de toute contrainte, les différents publics sont le produit d'une socialisation plus ou moins diffuse ou explicite, et que leurs comportements sont le fruit d'habitudes culturelles tout aussi contraignantes. L'historien nord-américain de la culture, Laurence Levine, dans un ouvrage désormais classique, Heiko Nobel, en cours de traduction à la découverte par Olivier Vanet, qui est ici et qui animera cet après-midi de discussion, a magnifiquement montré donc, dans son ouvrage, à propos des États-Unis au XIXe siècle, que la séparation des genres savants et des genres populaires en matière de spectacle vivant permet de faire correspondre des manières de se comporter à des genres culturels bien distincts. D'un côté, Lévine décrit le public indiscipliné, bruyant, qui réagit à ce qui se passe sur scène et interagit parfois avec les acteurs, je cite, qui console les malades, conseille les imbéciles, vient physiquement au secours de certains dans des scènes de bagarre, le public qui arrive en retard, fume durant le spectacle, part au beau milieu de celui-ci, le public qui parle à haute voix, tous rient, hurlent, crient, siffle, gesticule, tape des pieds ou avec des cannes sur le sol, jette des légumes ou des œufs sur les acteurs pour manifester sa joie ou son mécontentement. Le public vient davantage pour voir des acteurs ou des interprètes populaires que pour les œuvres qu'ils jouent. Pour se donner une idée assez précise de ce que pourrait être le public des salles de théâtre dans la première moitié du XIXe siècle, le meilleur moyen consiste, nous dit Lévy, et je pense qu'il a tout à fait raison, à observer le public actuel des grands événements sportifs qui réagit actuellement activement au spectacle. Et il faut préciser que la manière de se comporter dans un stade de football, dans un concert rock, dans une salle de spectacle populaire, n'est pas moins contrainte et codifiée que les manières plus policées des salles de spectacle plus légitimes. De l'autre côté, les films décrits à un public plus silencieux et discret, qui n'applaudit qu'à la fin des morceaux ou des pièces, reste sagement assis dans le fauteuil, attendant l'entracte pour se détendre et parler. D'un côté, donc, une frontière assez floue entre les acteurs et les spectateurs, de l'autre, une franche distinction entre la scène et les spectateurs, silencieux. D'un côté, un public dont la socialisation corporelle invite à l'expressivité et au mouvement, de l'autre, un public docile dont le corps est davantage habitué à l'attente discrète et à la retenue des sentiments, c'est un peu comme vous aujourd'hui, parfaitement policé, je ne pense pas que personne ici ne recevra de légumes, d'œufs, donc tout va bien. Donc tout ça, ça met en lumière le fait que la socialisation culturelle ne se réduit pas à une appropriation de connaissances ou de codes culturels. Elle implique toute une série d'attitudes et de postures corporelles, savoir attendre sans bouger ou sans manifester, ou manifester dans des temps qui sont admis, rester longtemps assis et silencieux, etc. Mais l'idée d'une éducation du public fait aussi son apparition. Les villes en parlent de manière très intéressante. On recommande aux personnes, en leur donnant des tracts à l'entrée des musées, à l'entrée des salles de spectacle, on leur recommande de ne pas fumer, de ne pas taper du pied, c'est écrit, ne tapez pas avec votre canne sur le sol, ne parlez pas pendant le spectacle, etc. Or, ce sérieux révérencieux, discipliné, qu'on essaie alors d'inculquer au public comme manière légitime de se comporter face à l'art, n'a rien à voir, précise Lévy, avec la manière dont les œuvres avaient initialement été appréciées. C'est une invention historique, beaucoup plus tardive en Europe, puis aux États-Unis, et aujourd'hui encore, on trouve des traces de résistance du public populaire eu égard à ces formes de comportement hautement disciplinées. L'éventail des réceptions n'est donc peut-être pas aussi ouvert qu'on l'a cru, pensé ou dit, et les récepteurs, individus ou publics, n'ont rien de libre, mais sont socialement et culturellement produits par des socialisations familiales, scolaires ou celles qui impliquent la fréquentation précoce et durable d'institutions culturelles spécifiques. En conclusion, je dirais seulement que j'ai voulu ici rappeler rapidement avec cette courte introduction, le plus court possible, mais j'arrive à 35 minutes, que les œuvres et les publics ne sont pas construits de la même façon dans ces programmes scientifiques différents, et il ne faut pas croire que parlant d'œuvres ou de publics, des sociologues aux programmes différents parlent au fond de la même chose, ou plus précisément des mêmes dimensions de la réalité sociale. Voilà pour l'introduction. Pas d'œuvres, pas de vie.